7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et puisque l'on parlait d'actualité internationale, 1989 fut une année essentielle pour notre siècle. France Culture, comme vous le savez, se penche sur cette année. Toute cette semaine, peu de livres d'analyse ont autant marqué les esprits au sujet de cette année que La fin de l'histoire, le livre de Francis Fukuyama. Un article qui fut d'ailleurs transformé en livre. Fukuyama, au travers de cet écrit, a déclenché une immense controverse. L'homme qui a anticipé l'effondrement du bloc communiste et qui en a analysé les causes enseigne aujourd'hui en Californie à l'université de Stanford. Il est notre invité exceptionnel dans les matins et d'abord il nous rappelle comment il en est venu à anticiper la fin du bloc communiste.
J'étais jeune analyste auprès de la RAM Corporation, groupe de réflexion. J'étais spécialiste de la politique étrangère soviétique. C'est du reste le sujet de ma thèse. Et un certain nombre d'entre nous suivaient la politique soviétique. Je travaillais sur un projet sur l'évolution de la politique intérieure soviétique sous Gorbatchev. Gorbatchev a fait un discours dans lequel il a dit « L'essence du socialisme, c'est la concurrence ». Et je me suis dit « Voilà quelque chose d'inhabituel. Le chef du Parti communiste soviétique dit que le socialisme, c'est la concurrence ». Ah là, c'est la fin de l'histoire. En fait, à mes yeux, la fin de l'histoire revêt une signification toute particulière parce que j'avais lu Alexandre Kojève et sa fameuse interprétation de Hegel dans les années 30. Il dit que la fin de l'histoire, c'était la bataille d'Iéna, 1806, et immédiatement, j'ai parlé à mes amis qui avaient vécu dans cette même tradition. Ils ont tout de suite compris que le grand défi envers la démocratie occidentale était venu à sa fin si Gorbatchev disait que le socialisme, c'était la concurrence. Donc c'est de là qu'est me venue l'idée d'écrire un article.
Est-ce que cette idée de fin de l'histoire reposait également sur une analyse de l'économie soviétique, du bloc de l'Est, Francis Fukuyama?
Une partie du problème de l'Union soviétique, c'était un problème économique. L'Union soviétique était en retard par rapport aux États-Unis. Il y avait un manque d'innovation. L'Union soviétique avait raté la révolution des semi-conducteurs. Et la critique était davantage morale. Il s'agissait de reconnaissance au sens hegélien. L'histoire humaine, selon Hegel, est poussée par le désir de l'homme d'être reconnu. Et dans une dictature communiste, on ne reconnaît pas les citoyens comme étant des êtres humains ayant le droit de s'exprimer, de se rassembler, de voter et de faire toutes ces choses qui seront le fondement de la personnalité du citoyen dans une démocratie occidentale. Donc la critique plus puissante de l'Union soviétique et du communisme était d'ordre moral. Les citoyens n'étaient pas traités comme des êtres humains.
Mais lorsque vous observiez cette situation, est-ce que vous vous disiez que la fin du bloc soviétique était proche? Est-ce que ça vous paraissait inéluctable, Francis Fukuyama?
I never believed anything was inevitable.
Je n'ai jamais pensé que quoi que ce soit puisse être inéluctable ou inévitable. Il y a certes des tendances, mais les anciens marxistes pensaient qu'il y a un moteur sous-jacent à l'histoire. Non, ce sont des agents, des forces qui prennent des décisions. Les décisions peuvent être différentes et c'est ainsi que l'histoire évolue. Mais j'ai remarqué, et là nous sommes en 88 et au début de 89, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tendances partout dans le monde qui semblaient favoriser plus de liberté, la Pologne, la Hongrie, avec des mouvements de la société civile, crise des réfugiés en Allemagne de l'Est, des gens qui voulaient quitter l'Allemagne de l'Est pour aller vers l'Ouest. Il y avait des problèmes en Chine, beaucoup d'endroits dans le monde, y compris en Europe, en Espagne, en Et au Portugal, les transitions après les dictatures. Donc, il y avait une espèce de tendance vers une plus grande démocratie dans le monde. C'est ce que Samuel Huntington, mon mentor à Harvard, a appelé la troisième vague de la démocratie. À l'époque, nous ne le savions pas, mais nous étions au milieu du guet. Et la transition la plus spectaculaire devait se produire en novembre, avec la chute du mur de Berlin.
Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là, Francis Fukuyama, quand le mur de Berlin est tombé? Est-ce que ça vous a surpris?
Oh, bien, j'étais surpris comme tout le monde. Je travaillais pour James Baker, le ministre des Affaires étrangères américain. J'ai écrit un rapport en mai 89, je l'ai envoyé à James Baker, et j'ai expliqué qu'il fallait penser à la réunification des Allemagnes, parce qu'il était difficile d'imaginer que la Pologne et la Hongrie puissent se libéraliser alors que l'Allemagne de l'Est resterait un bastion socialiste. À l'époque, personne au ministère des Affaires étrangères américain n'a pris cela au sérieux, ni au gouvernement allemand d'ailleurs. Moi, j'ai assisté à une réunion à la fin octobre, réunion de l'OTAN, et le représentant de l'Allemagne a dit « L'Allemagne ne se réunifiera jamais de mon vivant ». 10 jours plus tard, c'était la chute du mur. Donc tout le monde à l'époque était extrêmement surpris.
Ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, Francis Fukuyama, c'est que votre article « La fin de l'histoire » a eu des conséquences énormes. Souvent, les articles d'universitaires ou de consultants à la Rand Corporation, puisque vous étiez donc employé à la Rand Corporation, ce think tank qui est là pour conseiller les gouvernements et notamment le gouvernement américain. Souvent, ces articles n'ont pas beaucoup d'écho. Pourquoi, selon vous, a-t-il eu autant d'écho et comment avez-vous du coup décidé d'en faire un livre, lequel est paru en 1992?
I think that
d'une certaine façon, j'étais la victime heureuse des circonstances de l'histoire. La chute du communisme en 89, disons entre 89 et 91, a constitué l'une des grandes surprises historiques que l'on puisse vivre. Je pense que ce changement radical méritait un cadre analytique plus poussé, et c'est ce que mon article a fourni. J'ai dit, ce n'est pas simplement une transition dans l'histoire politique, non, c'est un véritable bouleversement de l'idée que l'on se fait du gouvernement. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle il y a eu ces conséquences.
Quelles ont été les différentes réactions à votre article et puis surtout au livre que vous avez publié? Comment les gens ont-ils réagi lorsque vous avez donc prolongé cette réflexion sur la fin de l'histoire? Et on va revenir sur ce que vous entendiez par fin de l'histoire.
Les réactions étaient diverses. La réaction dominante, c'était en fait un malentendu. Des gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Pas mal de gens ont pensé que je voulais dire qu'il n'y aurait pas d'événements qui permettraient à certains pays de devenir démocratiques. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire par la fin de l'histoire. L'histoire, au sens marxiste-hegélien, c'est synonyme de modernisation ou de développement, si vous voulez. Et la question que je soulevais, c'était la question de l'objectif de la modernisation. Donc, une partie des réactions était basée sur ce malentendu. Sinon, il y a des gens qui ont eu une réaction assez intéressante. Ce sont de véritables marxistes. Il y avait des réunions au sein de Cuba ou au sein de l'Union soviétique. Là, ce n'était pas un malentendu de ce que je disais. Ces gens-là ont très bien compris que je disais que plutôt que le communisme représentant la fin de l'histoire, ce serait la démocratie libérale qui serait la fin de l'histoire. D'une certaine façon, ça c'était une réflexion très approfondie. Par ailleurs, il faut bien voir qu'il y avait des turbulences à cette époque. C'était la crise des Balkans au début des années 90, il y a beaucoup de gens qui disaient que cet article est faux parce que l'histoire n'est pas finie, il y a du nationalisme, il y a des conflits divers et variés. C'était vrai, mais moi je pense que d'une certaine façon, là, il s'agit d'un malentendu. Ce sont des ajustements par rapport à la fin de la guerre froide.
Si vous deviez réécrire la fin de l'histoire aujourd'hui, Francis Fukuyama, qu'est-ce que vous changeriez à ce livre ?
C'est drôle que vous posiez cette question, parce que j'ai réécrit la fin de l'histoire, une étude en deux tomes du développement politique. Malheureusement, cela n'a pas été traduit en français. Le premier tome est intitulé « Les origines de l'ordre politique » et ensuite « C'est ordre politique et déliquescence politique ». Et là, je réécris donc le livre. Mais je comprends mieux les choses, je comprends mieux la façon dont évolue la politique. Et je dirais qu'il y a deux grandes évolutions. La première, je l'explique dans la nouvelle version du livre, et je me rends compte à quel point il est difficile de créer un État moderne, un État impersonnel, bureaucratique, qui cherche à préserver l'intérêt public. Et la seconde évolution, c'est la déliquescence. Les sociétés peuvent aller à marche arrière, peuvent rétrograder. Je m'en étais pas rendu compte en 89.
Ce qui a beaucoup surpris, lorsque vous avez publié cet article, puis ce livre, Francis Fukuyama, c'est qu'un Américain s'intéresse à Kojève, lecteur de Hegel, qui n'est pas un philosophe très connu, et face de l'histoire universelle. Parce que finalement, cette prétention de faire de l'histoire universelle, c'est quelque chose que vous soutenez tout à fait.
C'est une vaste question, d'autant plus vaste après la publication de mon livre, d'ailleurs. Parce qu'il y a une sorte de concours sur l'héritage de la pensée occidentale. Cela existe depuis de nombreuses années. Je crois que cela s'intensifie avec l'avènement de l'identité nationale. On dit que cette analyse historique, c'est simplement la façon dont l'Ouest s'approprie l'histoire des autres. Et la Chine, l'Inde, le monde musulman ont des perspectives historiques différentes et qui ne participent pas à ce même récit auxquels ont participé d'emblée Marx et Hegel. C'est une critique très sérieuse. C'est une critique qui est très vive en Europe, parce que la question qui se pose dans les pays européens, c'est y a-t-il des valeurs universelles ou qui pourraient être adoptées par d'autres pays, ou alors ces valeurs ne sont-elles que le résultat d'événements historiques qui n'ont aucune résonance dans d'autres cultures ?
Pour vous, le moteur, en quelque sorte, de l'histoire, c'est la lutte pour la reconnaissance, Francis Fukuyama.
La lutte pour la reconnaissance, c'est le fondement de la pensée de Hegel. Et c'est ainsi que je vois le monde, d'ailleurs. Les êtres humains ne s'intéressent pas simplement aux biens matériels. Ils veulent également la reconnaissance de leur dignité. Les êtres humains ont une dignité, une valeur intrinsèque. Et ils deviennent vexés ou insultés lorsque cela n'est pas reconnu. Et par conséquent, ils font valoir un certain nombre de principes. Et ça, c'est la grande réflexion de Hegel, c'est l'ordre de l'histoire. La Révolution française, par exemple, c'est une révolution à propos de la dignité. Les droits de l'homme, eh bien, c'est la reconnaissance des citoyens comme êtres humains. Il faut reconnaître leur égalité, l'égalité de la dignité des êtres humains. Donc, à mon sens, c'est encore très vif ce débat aujourd'hui. Différentes écoles de pensée pensent que leur dignité ont été remises en question.
Mais alors, c'est très compliqué la lutte pour la reconnaissance, parce que c'est aussi bien un certain nombre de revendications personnelles. Je veux être reconnu dans ma dignité, des choses qui ont trait à la politique, des choses qui ont trait au mode de vie. Comment vous distinguez ces différentes formes de lutte pour la reconnaissance, Francis Fukuyama ?
There are many
Il y a de nombreuses raisons pour exiger la reconnaissance. Tout d'abord, à titre individuel, par exemple, je peux penser que dans mon fort intérieur, j'ai une personnalité différente de celle que voient en moi mes parents ou mes employeurs. Mais pour de nombreuses personnes, dans leur fort intérieur, il y a cette notion de relation à l'autre. Donc on a une relation avec des gens d'un même groupe religieux, du même groupe ethnique, ou des gens qui ont vécu les mêmes expériences, ou qui vivent dans le même milieu culturel. C'est ça le grand défi aujourd'hui, parce que la démocratie libérale moderne repose sur la dignité humaine, selon laquelle nous sommes des agents moraux, nous sommes capables de choix, de déterminer notre sort. Le gouvernement nous donne des droits, mais bien souvent, cela ne suffit pas. Nous avons l'impression que cela va de soi, mais nous voulons être reconnus comme étant différents, comme étant membres d'un groupe particulier, particulièrement si l'on a été marginalisé, mis à l'écart. On se sent avoir quelque chose de commun avec d'autres. Si vous êtes un Afro-Américain qui souffre de racisme ou si vous êtes un migrant en Europe, vous avez l'impression d'avoir plus de points communs avec des gens qui ont connu la même souffrance que vous. Et là, il faut de la reconnaissance. Et c'est cela qui, à mon sens, pousse ces exigences de reconnaissance et d'identité, cette reconnaissance des identités des groupes.
Mais justement, on a l'impression que cette demande dans le communisme, elle est toujours actuelle. Et finalement, aujourd'hui, après 1989, quel bilan faites-vous du communisme, Francis Fukuyama? Est-ce que c'était une ruse de l'histoire, ce moment communiste? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours vivant? Bref, quel bilan faites-vous de ce système?
It depends on what you mean by communism.
Tout dépend de ce que l'on entend par communisme. À mon avis, nous recherchons l'égalité sociale et économique, et c'est cela qui a donné une force morale au communisme. Cela n'a pas disparu. À mon avis, il y a toujours une gauche qui voudrait utiliser le pouvoir de l'État pour arriver à cette égalité. La forme spécifique qu'a revêtu le communisme, la croyance que cela reposait sur le socialisme scientifique, que les travaux de Marx et Engels constituaient une sorte de Bible, cela avait une sorte d'aspect religieux. Cela dépendait d'une croyance irrationnelle. Cette forme-là, à mon avis, est vraisemblablement morte. Mais cette recherche de l'égalité, elle, perdure aujourd'hui. Et en fait, elle est d'autant plus prégnante aujourd'hui parce que l'égalité à laquelle on assiste dans le monde est plus grande qu'il y a 25 ou 30 ans.
Raymond Aron, qui est quelqu'un que vous avez aussi beaucoup lu, Francis Fukuyama, expliquait que le communisme était finalement une bonne méthode pour développer très rapidement un pays. Ça a fonctionné à l'Est, parfois ça a moins bien fonctionné dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque d'Aron?
It's worked in that fashion for countries that
cela a fonctionné pour des pays qui étaient pauvres, ce qui était le cas de l'Union soviétique dans les années 20. Mais les sociétés capitalistes peuvent se développer tout aussi rapidement. D'ailleurs, la Chine communiste a stagné jusqu'en 1978, lorsque Deng Xiaoping a ouvert le pays à la concurrence et aux forces de marché. Là, on a assisté à l'essor de la Chine. Donc, l'économie de marché constitue un moteur plus puissant pour la croissance économique. Prenez Singapour, la Corée du Sud, les exemples sont nombreux.
Justement, le lien qui est fait entre économie libérale et démocratie libéral, est-ce un lien qui mérite d'être toujours défendu ou bien est-ce que les deux choses, aujourd'hui on le voit, n'ont plus aucun rapport l'une avec l'autre?
Les deux sont liés, mais d'une certaine façon, elles se corrigent entre elles. Si on a une économie de marché pure et dure, avec peu de contraintes, eh bien, on va produire beaucoup d'inégalités. D'un point de vue politique, ce n'est pas durable. Donc, les économies de marché ont dû être liées à la démocratie, parce que les gens veulent la reconnaissance, mais ils veulent également un sort égal. C'est pourquoi il y a des États-providence, une protection sociale pour rééquilibrer les choses. Ce n'est pas toujours couronné de succès, mais cela atténue les inégalités qui résulteraient d'une économie de marché pure et dure. L'une des grandes erreurs des années 80 et 90, lors de la révolution néolibérale de Reagan et Thatcher, c'est que on prenait trop au sérieux le marché. Les gens ne comprenaient pas qu'il fallait quand même rééquilibrer l'économie de marché par un État susceptible de protéger les gens contre les excès des marchés. Et c'est une des raisons pour lesquelles on assiste aujourd'hui à un retour de bâton populiste. Les inégalités ont été bien trop importantes.
Et notre invité aujourd'hui dans les matins, bon réveil en compagnie de cet analyste pertinent de notre monde. Et tout d'abord, on revient sur l'une des alternatives au capitalisme aujourd'hui, un autre isme, l'islamisme.
I think that, Islamism has...
Je pense que l'islamisme
first of all, needs to be, disaggregated
doit...
because... Al-Qaïda et Daesh
doit être désagrégé, parce qu'Al-Qaïda et Daesh, ce sont des interprétations extrêmes de l'islam. Il y a d'autres interprétations. Par exemple, en Tunisie, il y a des mouvements compatibles avec la démocratie. L'un des grands problèmes, c'est l'Arabie saoudite. Là, il y a une version très conservatrice de l'islam dans un pays assis sur beaucoup de pétrole et qui a de nombreuses ressources pour répandre cette doctrine radicale partout dans le monde. L'islam, en tant que tel, est compatible avec la démocratie. Cela, on le voit dans plusieurs pays. En tant qu'alternative, il faut regarder l'Iran ou l'Arabie saoudite, où il y a un gouvernement théocratique. Et moi, mon sentiment, c'est que même pour les musulmans, cela ne constitue pas une bonne alternative. Si vous regardez l'Arabie saoudite aujourd'hui, l'éducation des femmes est telle qu'elles sont soumises aux contraintes du wahhabisme. En Iran, il y a mécontentement social. L'éducation est bonne, mais il y a beaucoup d'Iraniens qui ne veulent pas le régime des mollahs. Donc là, il ne s'agit pas de formes stables de gouvernance durable. C'est tenu à bout de bras par le pouvoir en place, mais personne ne préfère cela à autre chose comme type de gouvernement.
Est-ce que j'ai lu Francis Fukuyama que pour vous le rôle d'Al-Qaïda puis de Daesh avait été en quelque sorte exagéré, qu'on n'avait pas pris la juste mesure de ces deux organisations terroristes?
I do believe that these extremists.
Je suis persuadé que ces deux organisations terroristes extrémistes ont fait l'objet de plus d'attention qu'elles ne méritent dans le monde des affaires étrangères. Certes, il y a eu des actes de terrorisme spectaculaires, mais ce ne sont pas des écoles de pensée générales dans le monde musulman. Certes, elles attirent des jeunes hommes, surtout frustrés, qui agissent en raison de leur mécontentement personnel, mais cela ne représente pas une alternative sérieuse à la politique. Donc, je pense bien que l'on a exagéré les choses, particulièrement aux États-Unis, parce qu'il y a eu l'invasion de l'Irak, notamment pour contrecarrer cette menace. Et là, c'est une des grandes erreurs des affaires étrangères des Américains depuis longtemps.
Quelle a été la conséquence sur la pensée de gauche de la fin du bloc de l'Est pour vous, Francis Fukuyama?
The left has reacted in
Il m'apparaît que la gauche a réagi de différentes façons. Et la gauche essaye encore de trouver un équilibre. Donc la fin du marxisme en tant que philosophie biblique a entraîné diverses orientations pour redéfinir les inégalités. Au XXe siècle, il y a eu le prolétariat, les classes ouvrières, le conflit entre le capital et le travail. Mais notamment après 1968 et l'avènement de protestations d'ordre social, les inégalités, on les a vues notamment du point de vue du genre, de l'ethnicité. Il y a différentes formes d'inégalités qui ont étaient exprimés et qui ont mis de côté les intérêts de la classe ouvrière blanche. Et le populisme est un résultat de tout cela. Il y a pas mal de partis de gauche aujourd'hui qui ne sont plus considérés par les classes ouvrières comme étant véritablement représentatifs de leurs intérêts. C'est pourquoi il y a eu cette tendance vers les nouvelles formes de populisme qui, elles, sont bien plus ancrées du point de vue culturel. Il s'agit de reprendre le pays au profit des groupes ethniques dominants.
Justement, lorsque le bloc de l'Est était vivant, des penseurs menaient le monde, notamment Marx, mais aussi Lénine. Aujourd'hui, on a l'impression que plus aucun théoricien ne domine une partie du monde, en dehors donc de l'islam radical.
Il
est vrai qu'il y a une espèce d'incohérence pour ce qui est de fournir une alternative de gauche. D'une part, il y a cette politique identitaire qui est devenue particulièrement répandue, mais par ailleurs, il y a une partie de la gauche qui a fait la paix avec le capitalisme. Je vous parle de Clinton et Tony Blair qui ont accepté le fait qu'il va y avoir une économie de marché, il va falloir la modifier à la périphérie, mais rien faire de très sérieux. Donc, les grandes critiques radicales ne sont pas ressorties de cela ou de cette tradition marxiste. Cette critique radicale vient, par exemple, de l'islamisme.
Vous-même, est-ce que vous êtes à droite ou à gauche, Francis Fukuyama?
I've really never felt that those labels were all that helpful.
Ces étiquettes, je ne les trouve guère utiles. Personnellement, je suis, disons, de gauche du point de vue de mes préférences politiques, mais cela ne résulte pas d'un grand engagement idéologique. En fait, c'est une réaction par rapport aux événements. Par exemple, aux États-Unis, les inégalités, il y a 30 ou 40 ans, ne semblaient pas être un grand problème. Aujourd'hui, c'est un problème énorme parce que les inégalités sont devenues énormes. Par ailleurs, je pense que cela dépend vraiment des questions qui se posent, les questions d'actualité. Dans le domaine culturel, j'ai toujours tendance à être plus conservateur. Je pense que l'identité nationale reste importante. Donc je n'accepte pas certains aspects de la politique culturelle de la gauche. C'est pourquoi je pense qu'il faut être plus pragmatique. C'est ce que j'essaye de l'être. Il faut éviter d'être trop influencé par des questions idéologiques.
Vous avez été rangé parmi les néo-conservateurs, puis vous avez critiqué le néo-conservatisme et vous avez largement critiqué la présidence de Bush fils. Comment expliquez-vous justement cette évolution chez vous, Francis Fukuyama?
Moi, je pense que le néoconservatisme a été dévoyé à l'aube de la guerre en Irak. Le néoconservatisme, ça a été lancé par cette critique de trop de gouvernements. Vous voyez, et tout à coup, les néoconservateurs ont dit que les États-Unis ne pouvaient pas transformer le Moyen-Orient en une société démocratique sans la force militaire, ce qui m'a semblé être complètement en contradiction avec leurs arguments précédents. Et mon expérience de la façon dont nous avons traité les pays en développement m'a montré que ça n'allait pas fonctionner. Et c'est pourquoi je me suis éloigné des néoconservateurs.
Puis vous avez soutenu Barack Obama. Est-ce que là aussi, vous continuer à défendre la présidence Obama ou est-ce que Donald Trump est la conséquence de cette présidence?
J'ai trouvé qu'Obama était un bon président, je n'étais pas toujours en accord avec lui, mais il a néanmoins poursuivi cette tradition réformiste, progressiste. Malheureusement, je pense que la présidence d'Obama a fait le lit de la présidence de Donald Trump, parce que nous nous sommes trompés lorsqu'on pensait être arrivé à un état de politique post-raciale aux États-Unis. Et malheureusement, force est de constater qu'un homme noir à la Maison Blanche, ça n'a fait que susciter la colère de pas mal de blancs aux États-Unis. Et Donald Trump, c'est une réaction à cela. Et aujourd'hui, en conséquence, nous sommes revenus 50 ans en arrière du point de vue des relations raciales aux États-Unis.
Est-ce que, par exemple, le suprématisme blanc est aujourd'hui pour vous un danger aux États-Unis, Francis Fukuyama ?
Le nationalisme blanc, c'est un véritable danger aux États-Unis. Le potentiel de violence pouvant résulter de ce groupe est immense. Ces gens-là sont armés, ils sont très en colère, et je crois que cette polarisation constitue quelque chose à laquelle on n'a pas assisté depuis très longtemps, depuis les années 20, je dirais. Le KKK était une organisation très puissante à l'époque. Et malheureusement, le KKK est soutenu par la Maison Blanche. Le président semble être véritablement raciste. Raciste, oui, raciste. N'hésitons pas à utiliser le terme. Donald Trump s'est lancé dans la politique en disant que Obama n'était pas né aux États-Unis. Il a utilisé la question raciale tout au long de sa carrière pour être soutenu.
C'est-à-dire que lorsque vous avez écrit que Bush était la pire présidence américaine, vous êtes trompé.
Yes, I was wrong. I didn't think you could get worse than Bush.
Je ne pensais pas que ça puisse être pire que Bush. Mais je me suis trompé.
Qui peut battre Donald Trump selon vous, Francis Fukuyama?
Je ne sais pas qui. En fait, il y a pas mal de démocrates qui pourraient le battre. Joe Biden tient vraisemblablement la corde. Quiconque n'est pas trop à gauche chez les démocrates peut peut-être battre Donald Trump aux élections de 2020. Donc à long terme, et d'ailleurs, Donald Trump n'a jamais eu moins de 50% d'impopularité depuis qu'il est président. Donc on ne peut pas dire qu'il est extrêmement populaire. Peut-être que l'électeur américain n'est pas si déraisonnable que cela.
Mais le fait que l'idée socialiste aux États-Unis soit populaire parmi une partie des démocrates, Bernie Sanders, Madame Ocasio-Cortez. Bref, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, puisqu'on évoquait 1989 ensemble, Francis Fukuyama?
Well, I think that the use of the word socialism by
lorsque Sanders ou Ocasio-Cortez utilisent le mot socialisme, cela ne reflète qu'une confusion sémantique. Ces gens-là ne parlent pas véritablement de socialisme. S'il s'agit de nationalisation, propriété de l'État par rapport aux moyens de production, c'est pas cela qu'ils veulent. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est la démocratie sociale. Rien de plus. Le système qui prévaut en Scandinavie ou en France d'ailleurs. Mais ils utilisent le terme socialisme à tort. Certains jeunes responsables politiques n'ont pas d'expérience de ce qu'est le véritable socialisme. Donc le terme n'a pas la connotation négative qu'elle revêt dans mon esprit à moi, par exemple. Moi-même, j'ai grandi dans un monde où il y avait l'Union soviétique et d'autres pays communistes.
Mais il y a quand même une différence importante dans votre œuvre, Francis Fukuyama. Si on prend par exemple la fin de l'histoire, la préface que vous avez refaite bien après 1992 à ce livre et le deuxième tome de votre histoire de la politique, Political Order and Political Decay, là, il n'est plus du tout question d'optimisme. Vous critiquez le gouvernement américain, vous considérez qu'on n'a pas pris du tout les bonnes décisions après 2008, que les banques ont une position dominante et ont beaucoup trop d'argent pour être honnêtes. Ça veut dire que vous aussi, vous faites partie désormais des pessimistes sur cette terre.
I'm not sure that this reflects a systematic.
Est-ce que cela reflète un véritable pessimisme? L'un des grands arguments en faveur des pays démocratiques, c'est qu'ils peuvent se réformer. Le peuple peut en avoir assez d'un mauvais gouvernement et le remplacer. Donc ce que j'ai écrit vise à stimuler cela. Les Américains doivent avoir un débat important sur les choses qui ne vont pas dans le gouvernement du point de vue structurel, parce qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être mieux menées. Il y a des pays qui s'y prennent mieux, le Canada, l'Australie. Il y a beaucoup d'exemples de pays qui ont la même tradition culturelle et qui ont un meilleur gouvernement que les États-Unis. Donc, j'écris ces pensées dans un esprit de réforme et de progressisme plutôt que dans un esprit de pessimisme.
En France, l'année dernière a été marquée par une crise sociale importante, celle des Gilets jaunes. Vous avez suivi cette crise. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Francis Fukuyama ?
C'est assez familier parce qu'il y a pas mal de gilets jaunes qui venaient d'une classe sociale comparable. C'était des gens qui ne vivaient pas à Paris. Ce sont des gens qui n'ont pas les opportunités qui s'offrent aux gens dans les grandes villes. Contrairement à d'autres mouvements populistes, celui des gilets jaunes n'était pas lié à cette critique sociale. L'anti-immigration, l'hostilité envers les étrangers, ça ne faisait pas partie du mouvement des Gilets jaunes. Là, avec les Gilets jaunes, on était dans une colère différente, mais à bien des égards, il y avait des similitudes par rapport au populisme auquel on assiste ailleurs. Et cela, à mon sens, a reflété le sentiment que les élites, particulièrement le président Macron, n'étaient pas au contact de la population.
Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron ?
J'ai apprécié Macron au début. Si j'avais été citoyen français, j'aurais voté pour lui, parce que l'Union européenne, c'est une institution importante. Je crois que défendre la démocratie française contre le populisme de droite, c'est important, mais même les gens pour qui on vote se trompent parfois.
Certains Français vous diraient, par exemple, qu'il y a eu une répression importante du mouvement des Gilets jaunes, pourraient vous dire également que cette politique qui devait être balanced, qui devait être équilibrée, ne l'a pas été autant entre la droite et la gauche. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet, Francis Fukuyama ?
En fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des revendications claires dans l'esprit des Gilets jaunes. Tout a commencé par les prix de l'essence. Cette augmentation de la taxe était peut-être logique du point de vue de la politique et on ne peut pas constituer une idéologie autour de faibles prix de l'essence. Mais Macron a un certain style et il fait montre d'une certaine arrogance et il communique mal, il a mal communiqué. Et ses réunions avec les Français visaient à corriger le problème stylistique plutôt que le problème lié à sa véritable politique. Est-ce qu'il a réussi ? Peut-être, c'est peut-être une bonne chose parce que la démocratie française n'a pas besoin d'être déstabilisée.
Vous avez évoqué au début de cet entretien Gorbatchev. Aujourd'hui, la Russie est gouvernée par Vladimir Poutine. Comment interprétez-vous sa politique et ce qu'il incarne pour le populisme à l'échelle mondiale, Francis Fukuyama ?
À mon avis, Poutine, c'est une réaction naturelle à Gorbatchev. Sous Gorbatchev, l'Empire soviétique a été démembré. Et il y a eu une grande perte de prestige. Et cela a généré pas mal de ressentiment dans l'esprit de pas mal de nationalistes russes. Poutine, lui, construit sa légitimité sur ce ressentiment. La question plus importante qui se pose est de savoir si Poutine représente quelque chose d'important dans la culture russe face à l'autocratie, face à la domination d'autres peuples. Ce qui était inévitable pour un leader russe, ou est-ce que c'est un sous-produit accidentel de l'époque et des circonstances? Est-ce que la Russie pourrait être plus libérale au fil du temps. J'espère fermement que le libéralisme verra le jour et les protestations qui ont vu le jour face à Poutine et face à la manipulation des élections reflètent peut-être le fait que le peuple russe n'est pas destiné culturellement à vivre sous un gouvernement autocratique.
Mais justement, parce que dans la fin de l'histoire, vous remettiez en cause l'existence de culture politique. Vous disiez, voilà, il y a des fables qui considèrent que les Russes ne peuvent vivre qu'asservis, qu'ils ont besoin d'autocrates. Et on pourrait dire la même chose, évidemment, de la Chine, dont on va reparler. Alors, est-ce que, finalement, ces cultures politiques, elles ne sont pas plus puissantes que vous ne l'imaginiez ?
Difficile de nier qu'il y a ces grandes traditions historiques. Néanmoins, les choses peuvent changer. Actuellement, je passe pas mal de temps en Ukraine. Je voudrais que l'Ukraine devienne une véritable démocratie. Avant la révolution orange, personne n'aurait pensé que l'Ukraine, de tous les pays de l'ancienne Union soviétique, deviendrait le pays qui vise vraiment à devenir une démocratie. Et pourtant, on en est là. Les choses vont dans ce sens. Donc, je pense que nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Néanmoins, nous devons rester prudents et il faut veiller au déterminisme culturel parce qu'on peut facilement se tromper.
Mais est-ce que le populisme, justement, ne constitue pas, là aussi, une vraie alternative à la démocratie libérale? Vladimir Poutine a déclaré récemment que pour lui, le libéralisme était de l'histoire ancienne.
We don't know what the alternative is in
Quelle est l'alternative en Russie? Personne ne le sait. Peut-être le populisme, peut-être une société plus progressiste. Tout dépend de l'évolution du peuple russe. Avec plus de prospérité, plus de stabilité, plus d'éducation. Il y a des forces sur le long terme qui peuvent transformer la Russie vers une société plus ouverte. Tout est possible en Chine aussi. C'est ce à quoi on s'attendait depuis longtemps d'ailleurs. Mais tout espoir n'est pas perdu. Parce que, à partir d'un certain point de bien-être matériel, de sécurité, d'éducation, les gens aiment vivre de façon plus libre.
Il y avait quand même, là aussi, si on compare par rapport à la situation en 1989, l'idée qu'on avait fini avec un certain nombre de grands dangers et aujourd'hui, on a l'impression que finalement, ces discours-là, ils étaient un peu semblables aux discours qu'on voyait dans les années 1910, où on disait, ben voilà, le monde en a fini avec les grandes crises, c'est ce que pensaient des gens comme Keynes, des gens très estimables, vous en citez un certain nombre. Est-ce que le rapprochement fait sens pour vous, Francis Fukuyama, entre la période, mettons, de 1910 ou de 1930 et aujourd'hui?
Je reste optimiste. Je comprends les gens qui sont préoccupés de penser que nous pourrions être dans une période comparable aux années 30. Il y a des signes en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis qui montrent éventuellement les prémices d'un gouvernement autoritaire. Mais je crois que nos institutions sont plus fortes aujourd'hui. Par ailleurs, si l'on regarde l'ensemble de la planète, on s'aperçoit que la démocratie fait l'objet d'un grand désir. Il y a eu des mouvements populaires au Soudan, en Algérie, en Éthiopie, bien que ça ne soit pas un mouvement populaire. En Hong Kong, il y a des protestations. En Russie même aussi. En Europe de l'Est, il y a beaucoup de pessimisme ces dernières années parce qu'il y a pas mal de responsables politiques populistes qui ont vu le jour, mais il y a pas mal de résistance dans la République tchèque, en Slovaquie, en Roumanie et dans bien d'autres pays. Donc je ne pense pas que le désir de démocratie soit éteint.
Et la communauté européenne? Parce que là aussi, vous disiez finalement, l'État hegélien, il existe, c'est la communauté européenne. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, Francis Fukuyama? Est-ce que la communauté européenne, c'est une éventualité, une opportunité, un épouvantail?
I think that actually the crisis that the
Je crois que la crise qu'a vécue l'Union européenne au cours des 10 dernières années, pas simplement la crise populiste actuelle, hein, mais la crise de l'euro, la crise des réfugiés, tout cela constitue quelque chose qui a renforcé l'UE. Personne ne voudrait revoir une menace de quitter l'UE, ne voudrait revoir un autre Brexit, parce que l'alternative ne semble pas très heureuse ou prometteuse. Cela génère une situation où un nouveau leadership pourrait corriger le mécontentement qui a engendré le populisme. Donc l'Union européenne, j'y crois encore.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Brexit, par exemple, bon, je ne vais pas vous demander de prophétie, mais quel regard portez-vous sur ce qui est la situation actuelle de la Grande-Bretagne?
C'est un désastre, l'expérience de la Grande-Bretagne. La possibilité de quitter l'Union européenne sans accord, c'est tout à fait envisageable. Et les gens comprennent que c'est une erreur. S'ils se tenaient à un référendum aujourd'hui, eh bien, les gens voteraient pour rester, je pense. Et c'est une leçon pour les autres États. Rester dans l'Union européenne, ça représente de gros avantages et les alternatives ne sont pas très prometteuses.
Est-ce qu'on continue à vivre dans un monde post-1989? Est-ce que 1989, c'est une date aussi importante que 1806, la bataille d'Iéna, pour vous, Francis Fukuyama?
À mon avis,
1989 restera une charnière de l'histoire, un peu comme les autres dates que vous avez citées. Néanmoins, nous vivons une autre époque actuellement. D'une certaine façon, nous vivons une époque où la démocratie dans bien des régions du monde, c'est quelque chose que l'on prend comme venant de soi. Il y a de nouvelles exigences qui ont vu le jour, des exigences identitaires. Les gens veulent différentes formes de reconnaissance et ainsi, l'exigence n'est plus simplement une exigence d'avoir une démocratie paisible. Et ce monde-là va vraisemblablement perdurer un certain temps.
Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une page est définitivement tournée sur le communisme? Est-ce que véritablement, c'est quelque chose qui restera, alors différemment bien entendu du nazisme, mais comme de l'histoire ancienne?
Le seul pays qui a vraiment essayé de mettre en œuvre le communisme depuis 1989, c'est le Venezuela. Et l'expérience du Venezuela, c'est un tel désastre que c'est une démonstration du fait que le système ne fonctionne pas. Par conséquent, je ne pense pas que les pays seront nombreux à adopter cette voie. Les dangers sont différents. C'est le populisme. On accepte certains aspects de la démocratie, mais on mène des politiques qui sont exclusives sur le plan racial ou populistes sur le plan économique. Ça, c'est le vrai danger.
Bonne journée, Monsieur Fukuyama.
Bonne journée. Je suis très reconnaissant pour notre conversation. Thank you very much. I really appreciated talking to you.